franceinter.fr. 7h46 sur France Inter. Alain Baraton, bonjour.
Bonjour Patricia, bonjour à tous.
Vous allez nous parler des orties.
Eh oui,
c'est une plante dite mauvaise.
Et peu appréciée des jardiniers, elle est aux végétaux ce que le moustique est aux insectes, et c'est dommage, car l'ortie peut se révéler très utile, et ce n'est pas la confrérie des amis de l'ortie qui me dira le contraire.
Confrérie, avez-vous dit, ça existe vraiment, ça ?
Eh bien oui, bien sûr, et moi-même, ai-je eu l'honneur d'être intronisé après avoir prononcé ce serment.
Mais de ne pas vous piquer.
Eh oui. Ortie, toi qui as su piquer ma curiosité, me révéler tes vertus, je te jure fidélité et assistance en tout lieu et à toute heure.
Fidèle à l'ortie,
bah, même chose. Eh bien oui.
Il paraît qu'il en existerait une trentaine d'espèces.
Comme la grande ortie qui atteint 1,50 m de hauteur, ou la petite ortie, aussi appelée ortie brûlante. Ce n'est pas une plante, c'est une machine de guerre. Les feuilles et les tiges sont couvertes de poils qui se terminent par un petit crochet qui vous pique la peau et libère un acide plus que douloureux.
Mais il existe une ortie encore plus redoutable.
La palme d'or de la plante la plus redoutable pour l'homme revient sans conteste à l'urtica férox, c'est-à-dire l'ortie féroce. Vous imaginez déjà rien que le nom, urtica férox. Alors elle pousse en Nouvelle-Zélande, qui s'y frotte, s'y pique, voire y succombe. Son simple contact entraîne des œdèmes externes qui peuvent être mortels. Ça ne plaisante pas. Sa cousine canadienne n'est pas mal non plus. Ses feuilles sont si urticantes que les irritations qu'elles provoquent occasionnent des démangeaisons qui durent plusieurs semaines.
Bon, alors à part nous faire du mal, est-ce qu'elle peut nous être utile ?
Elle est utile et depuis très longtemps. Autrefois, l'on tissait ses fibres pour en faire un tissu ma foi agréable qui fut même appelé soie végétale. De sa racine, on extrait un colorant jaune. Bernadette Chamelaz est la spécialiste, par exemple, du célèbre purin d'ortie, y compris de la soupe d'ortie, qui est, paraît-il, délicieuse. Avec l'ortie, on fabrique du chewing-gum, du dentifrice et du shampoing très efficaces et qui évitent de perdre ses cheveux. Je n'emploie pas le conditionnel car j'ai essayé, ça marche et l'on fabrique aussi.
Qu'est-ce que ce serait si ça n'avait pas marché ?
Et l'on fabrique aussi avec la grande ortie africaine. Elle atteint 4 mètres de hauteur, de la pâte à papier. Mais attention, pas n'importe quel papier, le papier pour billets de banque. Hein ? C'est peut-être pour cela que l'argent nous brûle les doigts.
Mais c'est très très bon hein, les recettes aux orties. Moi j'ai dégusté il y a peu de temps là au restaurant un flan aux orties qui était absolument délicieux.
Ah mais tout à fait, je me rappelle d'un restaurateur qui officiait autrefois du côté des Andelys en Normandie. Et effectivement, sa soupe d'ortie était une pure merveille.
Dites-moi.
Oui.
Jurez-moi que mes tomates n'auront pas cette année la maladie du cul noir. C'est Laurence qui vous dit ça.
Oh, cette maladie, c'est la maladie la plus terrible pour la tomate, excepté le mildiou, bien évidemment. C'est une maladie qui se caractérise par une tache noire à l'extrémité de la queue du pédoncule. Parce que j'ai toujours du mal à définir l'emplacement exact. Et cela dit, un stress hydrique. Alors de quoi s'agit-il très exactement ? La plante a besoin d'eau comme tous les végétaux, bien évidemment. Bien que je rappelle que la plante étant originaire du continent américain, et surtout sud-américain, elle est habituée aux étés particulièrement secs. Mais il faut quand même l'arroser. Elle aime bien être arrosée régulièrement. Pour faire simple, vous arrosez la tomate tous les jours pendant un mois. Et puis vous partez en vacances, vous l'arrosez plus et vous revenez. Eh bien la plante est complètement déséquilibrée. Elle va développer un stress et ce stress hydrique aura pour conséquence la maladie du cul noir. Donc arroser régulièrement, peu, mais souvent, et vous n'aurez pas ce problème.
Est-il nécessaire de respecter une orientation avant de planter un tuteur pour un arbre ? Voudrait savoir Gérald.
Oui, alors il y a deux orientations possibles. En général, on va planter le tuteur du côté des vents dominants. Alors les vents dominants, généralement, c'est l'ouest. Quand on est en bord de mer, bien entendu, c'est du côté du grand large. Mais parfois, il peut aussi se servir, ce tuteur, à protéger les écorces des rayons du soleil. J'explique. Vous avez peut-être observé que souvent, les jeunes arbres, aujourd'hui, ont l'écorce qui se fendille. Et d'ailleurs, j'observe que les plantations le long des routes, dans les jardins publics, eh bien, sont souvent aujourd'hui emmaillotées de protection contre les rayons du soleil. Il s'avère que les pépiniéristes allemands, car beaucoup d'arbres, malheureusement, viennent d'Allemagne. Quand je dis malheureusement, je n'ai rien contre nos voisins, bien entendu, d'outre-Rhin, mais j'aurais aimé aussi que nos compatriotes puissent produire tranquillement des végétaux. Eh bien, ces jeunes arbres sont produits de manière intensive. Mmh. À savoir que les arbres ne sont pas déplacés en pépinière, qu'on n'habitue pas l'écorce, ou du moins, elle n'a pas le temps de s'habituer aux rayons du soleil. Et quand vous les plantez dans votre jardin, ils ne sont plus protégés des rayons du soleil par leurs voisins. Ils vont brûler, échaudure, fendillage, et il y a donc des problèmes. Eh bien, l'écorce permet donc, justement, là encore, le tuteur, pardonnez-moi, de réduire ce problème. Décidément, ça devient une habitude. Donc, vous placez votre tuteur du côté du soleil couchant et logiquement, vous n'aurez pas de problème d'échaudure sur l'écorce.
Si vous aviez à choisir, mon cher Alain Marathon, vous planteriez un Paulownia ou un Catalpa ? Voudrait savoir Maurice.
Ces deux arbres se ressemblent étrangement. Il faut les voir en fleurs pour les distinguer. Le Catalpa fleurit blanc, le Paulownia mauve. C'est des grandes grappes mauves, on en voit souvent. Ces arbres-là se distinguent également par leur floraison, car par leur fructification, le Catalpa va produire des grandes gousses semblables à des gigantesques haricots verts. Il y a également une petite nuance pour les distinguer quand il n'y a ni fleurs ni fruits. Dans Catalpa, voyez-vous, il y a parce que les feuilles sont très semblables. Et je vous assure qu'il faut vraiment avoir un petit coup d'œil pour distinguer, hors floraison, hors fructification, un Catalpa d'un Paulownia.
Oui, mais vous, oui.
Eh bien, vous aussi, distinguez. Grâce à mon petit conseil. Dans Catalpa, voyez-vous, il y a trois fois la lettre A. Catalpa. Les feuilles sont reliées trois par trois. Dans Paulownia, il n'y a que deux A. Les feuilles sont reliées deux par deux. C'était un petit truc
mnémotechnique, c'est
oui,
pas bête du tout.
Que j'ai appris tout jeune quand j'apprenais l'horticulture et qui est très efficace. Alors pour répondre à la question, eh bien moi je préfère le Catalpa. Parce que Catalpa vit beaucoup plus longtemps que le Paulownia et surtout grandit beaucoup moins vite. Le Paulownia est l'un des arbres qui pousse pour moi le plus vite. C'est dément, la vitesse de croissance. Et on veut créer une terrasse, on veut se protéger, c'est très bien. Mais à un moment donné, l'arbre à 40 ou 50 ans, il est déjà limite vieux. Vous allez me dire 40 ou 50 ans, on a le temps de voir. Oui, mais quand vous avez des enfants, eh bien c'est quand eux-mêmes auront 40 ou 50 ans, c'est dur de couper un arbre qui a été planté par papa ou maman. C'est triste.
Dans ces cas-là, il vaut mieux choisir un chêne.
Ou un Catalpa qui, lui, poussera moins vite et pourra vivre très longtemps. Il y a dans le parc de Trianon, un parc sublime, comme vous le savez, un vieux Catalpa qui a été planté sous Marie-Antoinette. Il est en pleine forme, un gamin. Quand je vous dis que le Catalpa vit longtemps, la preuve, il y en a un à Versailles qui a presque 300 ans.
Pas facile de circuler, j'imagine, lundi, hein, pour vous, dans votre cher parc.
J'ai décidé de ne pas bouger de mon parc et d'être là et de regarder le balai des voitures officielles.
Françoise vous pose cette question, pourquoi les feuilles du dessus de Mahé et de Buis sont-elles blanches ?
Alors c'est un problème que l'on voit partout et que j'ai d'ailleurs pour les partants du Grand Trianon pour lundi. Parce que vous venez de faire allusion à la visite de Vladimir Poutine reçue par Emmanuel Macron à Versailles. Vous vous doutez que les jardiniers font tout pour que le parc soit magnifique. Nous avons envie que le président de la République et les millions de téléspectateurs qui vont regarder en France ou à la Russie cet événement, eh bien regardent les jardins. Et nous avons ce petit problème sur les parterres du Grand Trianon. Là aussi, les feuilles des buis sont blanchâtres. Cela est dû aux gelées tardives. Nous avons taillé la haie de buis et le gel est arrivé et toutes les petites feuilles à l'extrémité ont jauni. Alors on les balaye pour les évacuer le mieux que l'on peut, mais ce n'est pas simple. Donc ce n'est pas grave. Il faut attendre, mais il est vrai que pendant quelques semaines, le résultat n'est pas très beau.
Et dans ces cas-là, vous en êtes ou on vous cache ?
Non, on ne me cache pas, mais je n'en suis pas.
Géraldine adore les corettes du Japon. Elle aimerait savoir si elle peut obtenir un nouveau pied en prélevant simplement un rejet.
Oh oui, le Caria japonica, corette du Japon. Vous connaissez cette plante ? Ce sont des petites tiges qui partent verticalement et qui sont couvertes de fleurs jaunes comme des pompons. C'est magnifique. Les feuilles sont belles. Même la verdure, je ne sais pas si on dit la verdure ou la verdeur. Je ne sais pas. La couleur verte des feuilles est sublime. Il vous suffit simplement de donner un coup de bêche là où il y a des rejets, de les transplanter. La replantation est d'une facilité, déconcertante.
Est-il préférable d'utiliser des houlettes plutôt que des plantoirs pour planter les bulbes ? Question de Suzanne.
Alors le plantoir, c'est ce cône semblable à une carotte que l'on enfonce dans la terre. L'inconvénient, c'est que la forme est pointue. Quand vous plantez un bulbe, lui n'est pas pointu. Ce qui veut dire qu'entre la base du bulbe et la terre, il y a une poche d'air qui va se créer. Donc ce n'est pas très recommandé. Donc je préfère la houlette. La houlette étant l'autre nom des petites pelles qui permet, je trouve, un travail de meilleure qualité.
Vous avez une balade à nous conseiller ?
Oui, une question surtout. Je ne sais pas si je dois dire la fête des plantes de la citadelle de Doulens ou de Doulens dans la Somme.
C'est ENS ?
Oui, on dit Georges Brassens, on ne dit pas Georges Brassens. La commune de Bassens, en Gironde, on dit Bassens. Donc là, on va dire Doulens. Donc c'est la fête des plantes de la citadelle de Doulens dans la Somme. C'est à 45 minutes à peu près d'Amiens et d'Arras. 30e anniversaire, cet après-midi, baptême de la rose Albertine Sarrazin, ce soir grande fête à la citadelle, je ne vous parle pas du spectacle Son Lumière qui est gratuit, l'occasion de rencontrer 70 pépiniéristes, producteurs, collectionneurs venus de France et d'ailleurs, c'est donc merveilleux, C'est donc les journées douélanaises des jardins d'agrément aujourd'hui et demain.
À demain, Alain Baraton, 7h56.